Ces médias exercent un pouvoir de révélation et d'occultation. C'est un pouvoir de révélation ou de dissimulation, des faits et des analyses qui, sans eux, ne seraient pas portés à la connaissance publique. C'est ce pouvoir de révélation que les médias ou la plupart des journalistes invoquent le plus souvent pour faire valoir leur rôle de contre-pouvoir. C'est la légende du Watergate. Je voudrais simplement dire qu'il s'agit d'un pouvoir qui est surtout un pouvoir de révélation qui consiste, ou le canard enchaîné par ses maîtres en la matière, qui consiste tout simplement à sortir publiquement des dossiers qui leur sont confiés pour des raisons politiques très diverses par la justice, la police ou les formations politiques. C'est un journalisme qui est beaucoup plus ce que j'appellerais un journalisme de révélation qu'un journalisme d'investigation. Parce qu'un journalisme d'investigation, c'est pas seulement un journaliste qui se contenterait d'aller chercher l'information où elle se trouve déjà, mais dissimulée, et d'attendre souvent qu'on la porte à domicile quand tel ou tel juge, policier ou responsable politique juge intéressant de le faire, comme ce fut le cas par exemple de la cassette Méry qui a été mise dans la boîte à lettres du Monde, bon, qu'il a rendu public, fort bien, mais c'est pas de l'investigation, ça. C'est très rarement un journalisme d'enquête. Mais l'autre face, c'est que ce journalisme de révélation, ce pouvoir de révélation, va de pair avec un pouvoir d'occultation. Ce pouvoir d'occultation, qui n'est pas exercé, évidemment, de façon intentionnelle, au terme d'une concertation entre tous les médias et tous les journalistes au sein des médias, c'est le pouvoir de passer sous silence un certain nombre de faits importants, mais qui ne répondent pas aux logiques de l'audience ou tout simplement aux logiques de rentabilité des médias dominants. J'en donnerai un seul exemple. La recherche de l'audience maximale dans des conditions de crise économique de la presse écrite a eu comme conséquence la raréfaction des correspondants permanents de presse. La plupart des médias audiovisuels vivent sur la base des envoyés spéciaux. Le correspondant permanent n'est évidemment pas quelqu'un qui vit en état d'apesanteur sociale et idéologique, bien sûr. Les rubriques internationales du Monde, par exemple, pendant des années, n'a pas été exempte de présupposés politiques et idéologiques. Ça n'est pas quelque chose qui est survenu brutalement en 2009. Mais c'est pas la même chose un correspondant permanent et un envoyé spécial. S'il y avait eu des correspondants permanents au Sri Lanka, vous imaginez bien que la plupart des médias ne seraient pas trouvés, et nous-mêmes du même coup, ne se serait pas, nous-mêmes, si nous ne sommes pas spécialistes de la question, trouvés dans la situation suivante de découvrir au moment où des massacres de masse sont perpétrés qu'il y a un conflit au Sri Lanka. Dont d'ailleurs, si vous lisez la presse, on ne sait toujours pas de quoi il retourne, à part qu'il y avait une guérilla de séparatistes tamouls, et qu'il y a encore sans doute, même si elle semble vaincue militairement, une guérilla de séparatistes tamouls qui était combattue par la majorité du pouvoir politique sri-lankais. Quels sont les ressorts économiques, politiques, sociaux, géopolitiques de cette révolte et de cet affrontement? Nous n'en savons, sauf si nous sommes spécialistes de la question, et sûrement qu'il y a un expert qui va être dégoté prochainement pour passer sur LCI. Mais il n'est pas encore dans le carnet d'adresse, celui-là. Hein. Donc il y a un pouvoir qui est un pouvoir d'occultation que les médias ou les journalistes exercent évidemment très souvent à leur corps défendant. À part Jean-Pierre Pernaut, je ne connais pas de journaliste qui ait déclaré, comme il l'a fait, « Si vous voulez connaître l'actualité internationale, il est inutile de regarder le journal de TF1, lisez la presse internationale. » Je cite à peu près de mémoire. La plupart des journalistes, qu'ils soient spécialisés dans les questions internationales ou pas, évidemment, doivent vivre comme une forme de souffrance professionnelle le fait de ne pas pouvoir disposer des moyens d'une couverture internationale suffisante. Enfin, il y a un pouvoir des médias qui est un pouvoir de problématisation. Pouvoir de problématisation des questions et des solutions légitimes. Si vous voulez, le pouvoir de tracer symboliquement le périmètre des problèmes et des solutions légitimes et de garder ainsi les frontières du politiquement acceptable. Les médias, on le sait depuis fort longtemps, dise moins au public ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser, c'est-à-dire ce qui doit être jugé comme remarquable dans l'actualité, et j'ajouterais peut-être moins ce à quoi il faut penser que la façon dont on doit le penser. Un seul exemple. La violence, en ce moment, c'est la violence verbale qui a amené Besancenot à qualifier le patronat de Caterpillar de chien. Il paraît que c'est le comble de la violence. Et un certain nombre de salariés en grève de retenir pendant quelques heures quelques cadres d'entreprise dans leurs locaux. Ce n'est évidemment pas la violence sociale qu'exerce quotidiennement l'exploitation, l'oppression et la domination contre la majorité des salariés. Et de ceux d'ailleurs qui n'arrivent pas à l'être. Donc il y a une façon de mettre en scène ce qui relève de la violence et ce qui n'en relève pas. J'ai pris pour l'habitude de dire, vous avez un problème de l'immigration en France. Le problème de l'immigration, c'est évidemment le problème que les immigrés seraient censés nous poser. Ce n'est pas les problèmes qui se posent aux immigrés. Donc vous avez comme ça une mise en forme, une mise en scène. À qui s'adresse-t-elle? Et même d'ailleurs, à qui s'adresse pour l'essentiel l'ensemble des pouvoirs que je viens d'invoquer? Je dis bien pour l'essentiel. C'est un pouvoir de fabricant d'opinion destiné prioritairement aux fabricants d'opinion. Mais par leur intermédiaire, il arrive que cela nous atteigne. Certes pas de façon absolue, mais de façon suffisante pour qu'on puisse dire que même si les médias ne sont pas tout puissants, ils sont à bien des égards trop puissants. Des pouvoirs multiples, mais qui se conjuguent le plus souvent dans le même sens. Et quand des pouvoirs se conjuguent le plus souvent dans le même sens, eh bien, ils exercent une véritable domination.